Merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, 2h de plus ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe et puis à midi, temps universel, votre journal Olivier Sherman. Bonjour.
Bonjour Anne.
Avec d'abord l'actualité au Proche-Orient.
Oui, nous irons tout d'abord au Proche-Orient où un bateau de la flottille de la Liberté chargé de nourriture pour la bande de Gaza a été bombardé par des drones israéliens dans les eaux internationales au large de Malte. Une attaque qui intervient 2 mois, jour pour jour, depuis l'entrée en vigueur du blocus total par Israël qui empêche toute arrivée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le classement annuel de la Liberté de la Presse par Reporters sans frontières, publié aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour les journalistes de faire leur travail. Une situation préoccupante, nous dira la directrice éditoriale de RSF, Anne Bokande. Donald Trump écarte son conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, fragilisé par l'affaire des plans militaires partagés par Mégarde. Il pourrait devenir l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, mais ce n'est pas gagné, les démocrates n'y sont pas favorables. Enfin, la guerre commerciale entre Washington et Pékin, les colis venant de Chine, notamment ceux concernant les petits habits, les petits bons marchés des géants du e-commerce, sont désormais frappés par des droits de douane punitifs aux États-Unis. Plus de 4 millions de colis arrivaient sans frais jusqu'ici aux États-Unis chaque jour.
A tout à l'heure, Olivier.
RFI Midi. L'Europe à midi.
Dans un instant, nous parlerons des élections à venir en Roumanie, mais d'abord direction l'Allemagne, où les services de renseignement ont pris une décision aux conséquences potentiellement majeures pour la vie politique. Ils ont classé le parti AfD, mouvement extrémiste de droite, ce qui signifie qu'il peut, en théorie, être placé sous surveillance. À Berlin, Nathalie Versieux.
L'idéologie de l'AfD dévalorise des groupes entiers de la population allemande et porte atteinte à leur dignité humaine, a tranché ce matin l'Office de protection de la Constitution. La conception du peuple basée sur l'ethnicité qui prédomine au sein du parti n'est pas compatible avec l'ordre démocratique libre. Fin de citation. Concrètement, l'Office pourra désormais surveiller jusqu'aux communications privées des membres de l'AfD, un coup dur pour le parti arrivé second aux élections avec plus de 20% des voix. Le premier parti d'opposition revendiquait des postes d'influence au sein des commissions parlementaires du Bundestag. Il sera plus aisé encore au parti traditionnel de les lui refuser. Surtout, la décision des renseignements intérieurs est une étape indispensable vers la voie d'une interdiction de l'AfD qui faisait débat en Allemagne depuis des années. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
L'actualité en Europe, ce sont aussi les élections qui approchent en Roumanie. Premier tour de la présidentielle, un deuxième premier tour après l'annulation de l'élection en novembre dernier pour des soupçons d'ingérence étrangère. À cette période-là, Călin Georgescu était arrivé en tête. Il a depuis été exclu du scrutin et c'est George Simion qui reprend le flambeau de l'extrême droite roumaine, avec l'espoir à son tour d'arriver en tête du premier tour. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
À l'inverse de Călin Georgescu, lui que personne ne connaissait, George Simion, c'est une personnalité bien connue des Roumains.
Oui, en dépit de son jeune âge d'ailleurs, hein, 38 ans seulement, cela fait plusieurs années que George Simion fait parler de lui à la tête de la formation qu'il a créée en 2019, l'Alliance pour l'unité des Roumains, un parti d'extrême droite nationaliste, eurosceptique et qui se pose en pourfendeur des élites. George Simion a un parcours pour le moins étonnant. Avant de fonder ce parti et de devenir donc le champion de l'extrême droite roumaine, c'est dans les tribunes des stades de foot qu'il se fait d'abord connaître. Sergiu Mișcoiu, professeur de sciences politiques à l'université de Cluj en Roumanie.
Il était l'un des leaders des groupes de supporters de l'équipe nationale roumaine et il s'est fait illustrer par des cafouillages avec les gendarmes, notamment lors des matchs de l'équipe nationale, comme pas mal d'autres supporters le font dans ce genre de situation. Puis son activité a viré vers la contestation du néocommunisme en Roumanie, de l'ancien président Ion Iliescu, de ses conseillers. Ultérieurement, il passe par une phase où il défend l'unionisme, il fait de l'agitation pour l'union de la Moldavie vis-à-vis avec la Roumanie, en mettant en avant l'identité commune roumaine de ces deux peuples.
Juste après la fondation de son parti nationaliste en 2019, survient un événement qui va lui servir de catalyseur, la pandémie mondiale de Covid. Avec son talent pour la provocation et sa maîtrise des réseaux sociaux, il s'empare de la lutte anti-vaccin et anti-confinement. Résultat, il effectue une percée inattendue aux législatives de 2020 en remportant 9% des voix. George Simion va alors tout miser sur la présidentielle de 2024 en adoptant une stratégie bien connue au sein de l'extrême droite européenne, celle de la dédiabolisation.
Donc il a essayé d'acquérir un profil plus présidentiable, il a poli son discours, il a aussi fait des contacts à l'international et à la suite de tous ses efforts, il a pu s'imposer comme un leader de l'extrême droite, quand même en bannissant du parti les éléments les plus radicaux, comme M. Georgescu, qui était en 2020 sa proposition de Premier ministre.
Une stratégie qui ne réussit pas à Georges Simion.
Puisque, en effet, il est distancé dans les urnes par l'homme qu'il a justement banni de son parti, Colin Georgescu, et qui adopte principalement sur le réseau TikTok une rhétorique bien plus radicale que lui. Accusé d'avoir bénéficié du soutien d'une puissance étrangère, Colin Georgescu est finalement disqualifié. Paradoxe, ce que l'extrême droite roumaine qualifie aussitôt de coup d'État offre une seconde chance à George Simion.
Avec cette fois un nouvel élément qui pèse lourdement sur la campagne électorale, c'est le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump.
Et oui, car la nouvelle administration américaine, en particulier le vice-président J.D. Vance, a dénoncé l'annulation de l'élection et a apporté un soutien explicite à l'extrême droite roumaine. George Simion assume ce soutien à 100% en arborant fréquemment la fameuse casquette rouge du mouvement trumpiste. Il assume ce soutien et cela malgré les débuts quelque peu erratiques du mandat de Donald Trump. Écoutez l'analyse de Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF à Sciences Po.
Le fait que le début soit chaotique montre précisément que Donald Trump essaie de s'attaquer à des forces plus grandes. Donc ça n'a pas affaibli en quelque sorte le rattachement à Donald Trump qui existe chez Simion. Et donc on a toujours la même idée qui est que d'après George Simion, eh bien ce que cherche au fond Donald Trump, c'est la paix en Europe. Et l'idée que, eh bien, dans le cadre du conflit russo-ukrainien, il est préférable de laisser tomber l'Ukraine, d'abandonner une politique qui consiste à armer l'Ukraine pour aller vers une paix durable qui sera plus profitable aux Roumains. Et c'est le discours qu'essaie d'insinuer George Simion.
George Simion se revendique donc de Donald Trump, mais également d'autres figures souverainistes, en particulier en Europe, celle de Giorgia Meloni ou de Viktor Orban. Pour l'heure, George Simion est annoncé vainqueur du premier tour, qui aura lieu ce dimanche. Largement vainqueur d'ailleurs, puisqu'il est crédité tout de même de 30 à 35% des voix. Au second tour, qui aura lieu le 18 mai, en revanche, les choses s'annoncent un petit peu plus compliquées, car George Simion sera alors opposé au candidat unique du camp libéral et pro-européen.
George Simion, l'européen de la semaine. Merci Daniel Valo. Après l'annulation de cette présidentielle pour cause d'ingérence via TikTok, eh bien on a pu voir que le groupe chinois qui possède l'application a tenté de s'afficher plus respectable, Dominique Dezonnet, surtout après des accusations venant des instances européennes.
Oui, d'ailleurs au cœur de cette crise politique majeure qui a secoué le pays, eh bien nous trouvons des milliers d'influenceurs sur la plateforme TikTok qui participaient en novembre dernier contre rémunération à des campagnes en ligne en faveur du candidat d'extrême droite. La plateforme européenne pour des élections démocratiques et le forum d'experts. Les forts ont alors accusé la Russie d'ingérence en révélant qu'un grand nombre de comptes créés par de soi-disant citoyens roumains étaient en fait entièrement fictifs. La Commission européenne a donc ouvert une procédure formelle pour déterminer si le réseau social avait ou non protégé l'intégrité des élections roumaines. Bruxelles s'inquiète par ailleurs de la vente d'espaces publicitaires à caractère politique sur TikTok, rappelant que cette pratique commerciale est fortement encadrée dans les pays européens en période électorale et de toute façon complètement interdite en Roumanie.
Et c'est dans ce climat électoral très tendu de retour aux urnes en Roumanie que le réseau social TikTok tente de faire amende honorable.
Oui, sous la menace des sanctions européennes, la maison mère chinoise de TikTok a été contrainte de mettre en place un nouveau centre électoral. Concrètement, le dispositif est piloté par un groupe d'experts en cybersécurité internationaux roumains et de l'UE. Le système se présente aussi sous la forme d'une une application qui est accessible directement sur les mobiles des internautes, les invitant à signaler au centre électoral tous les contenus qu'ils estimeraient litigieux. En mars dernier, l'Ancom, qui est le régulateur des services numériques en Roumanie, a effectué un test de résistance de ce nouveau dispositif en présence des délégués de la Commission européenne et des autorités du pays. Cette mise à l'épreuve des systèmes de modération ne concernait pas seulement TikTok, les sites de Meta comme Facebook ou Instagram et le réseau X d'Elon Musk participaient également à cette évaluation.
Et TikTok a lancé au début de l'année une campagne d'éducation aux médias en ligne réalisée en collaboration avec la presse roumaine.
Oui, l'objectif de cette série de clips est de renforcer le sens critique des internautes sur les messages qu'ils reçoivent sur leurs réseaux sociaux, des contenus qu'ils consultent par ailleurs en très grande majorité sur TikTok. Je suis convaincu que nous sommes mieux préparés, estime le président par intérim de la Roumanie, mais il ajoute aussi que de nouvelles attaques informatiques hybrides menées par la Russie pour diviser la population sont en forte augmentation à la veille de cette élection. Le premier tour de la présidentielle roumaine ce dimanche aura donc valeur de test pour TikTok en permettant d'évaluer si ces dispositifs de cybersécurité auront été d'une quelconque efficacité.
Dominique Dezonnet, l'influence russe en Europe, question particulièrement sensible depuis le début de la guerre en Ukraine, conflit qui pousse les pays du continent à repenser leurs politiques et leurs investissements dans le secteur de la défense. La Pologne, par exemple, a mis en place une formation militaire, espère la faire suivre à plus de 100 000 personnes l'année prochaine. Ce programme « Entraîne-toi avec l'armée » s'adresse aux civils âgés de 16 à 65 ans. Il dure une journée seulement. Mais il rencontre un certain succès. Reportage à l'Académie de Marine de Gdynia, Adrien Sarla.
Tireur de grenades d'infanterie, feu! C'est une immersion dans un tout nouveau monde pour les recrues du jour. Et maintenant, vous vous cachez pour respecter la procédure de sécurité. 3, 2, 1, et la grenade explose. Liliana n'avait encore jamais eu l'occasion de s'entraîner au lancer de grenades. Emmitouflée dans son carré rose bonbon, la chef d'entreprise a saisi cette opportunité de sortir de sa zone de confort le temps d'une journée.
Qu'il s'agisse du lancer de grenades, des exercices dans la piscine, de la lutte ou d'apprendre à reconnaître les différentes alarmes, le programme est très intéressant. Je suis venue pour le plaisir, mais en même temps, on ne sait jamais à quelle situation on peut se retrouver confronté.
Cette journée d'initiation à l'Académie militaire de Gdynia représente le premier contact de la quinquagénaire avec l'armée. Elle a déjà l'habitude de s'entraîner au tir ou à la lutte sur son temps libre. Mais cette formation revêt une toute autre dimension pour elle.
Le contexte international est sensible, c'est vrai. On ne sait pas ce qui peut arriver dans un an ou deux. Et savoir comment se comporter dans certaines situations, que faire, comment s'abriter, c'est très important. Bien entendu, on n'apprend pas tout. Mais le sentiment de savoir comment faire face à certaines situations de crise compte beaucoup pour moi.
Comme beaucoup de Polonais, elle souhaite être prête si le conflit en Ukraine s'étend jusqu'à son pays. Elle écoute attentivement les consignes d'un instructeur qui aurait pourtant l'âge d'être son fils. Depuis la loi sur la défense de la patrie, votée au lendemain de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, les étudiants peuvent remplir des fonctions d'encadrement dès leur deuxième année à l'Académie militaire. Igor, lui, ne sera diplômé que l'an prochain et il n'est pas peu fier de jouer les passeurs de savoir.
On s'efforce de transmettre nos connaissances de la façon la plus abordable possible à travers des exercices pratiques, théoriques, pour convaincre un maximum de volontaires de venir étudier à l'Académie militaire de la Marine, voire de s'engager dans l'armée comme soldat professionnel.
Parmi les 8 ateliers proposés aux participants, celui sur les techniques de secourisme en mer implique que les soldats en herbe acceptent de mouiller le maillot. Coiffé d'un bonnet bleu turquoise, Bartek, 45 ans, se hisse péniblement sur le radeau gonflable en caoutchouc au milieu de la piscine de l'académie, aidé par ses camarades. Il a entraîné son fils de 17 ans avec lui dans cette aventure un peu particulière.
Je pense que par les temps qui courent, c'est crucial qu'il apprenne comment survivre dans des situations de crise extrême. Quelles sont les bases, ou comme ici, d'acquérir des réflexes pour venir en aide aux personnes Bartek en difficulté dans l'eau.
Donc vous n'êtes pas venu ici pour le fun ?
Aussi, car l'un n'empêche pas l'autre, parce que même si c'est une super occasion de se former, mais comme vous le voyez ici, c'est aussi super amusant.
Et c'est justement sur cet aspect ludique que joue l'armée pour faire tomber le mur qui la sépare des civils. Depuis 6 ans que le programme existe, l'institution observe une hausse d'intérêt parmi les participants de plus en plus nombreux. Un constat qui réjouit le porte-parole de l'Académie, les 150 places pour participer à la journée de formation ont été écoulées en 2 semaines seulement.
Et en tant que pays voisin de l'Ukraine, qui a une expérience si cuisante de la Seconde Guerre mondiale, on est beaucoup plus sensibilisé à la menace et on se réjouit que les citoyens en soient conscients et se joignent à ce programme pour acquérir des connaissances pratiques et théoriques utiles en cas de situation de crise.
Et le haut gradé ne cache pas que cette journée placée sous le signe de la découverte s'inscrit surtout dans une politique assumée de recrutement intensif.
On est ravis qu'il y ait beaucoup de jeunes de 17-18 ans qui sont encore au lycée, des futurs bacheliers qui sont des potentiels futurs étudiants pour nous. Il y a aussi des personnes pour qui c'est une vocation et qui suivent la devise de l'Académie, Amor Parti Super Lex. L'amour de la patrie est le bien le plus précieux. Je pense que c'est très important et que la question « qu'est-ce que la patrie ?» devrait occuper l'esprit des jeunes, surtout aujourd'hui.
Des préoccupations qui s'inscrivent dans l'objectif du gouvernement. À terme, Varsovie entend dédier 5% de son PIB à la création d'une armée de 500 000 hommes, la plus puissante d'Europe. Adrien Sarlat, Gdynia, RFI.
Reportage de notre correspondant, donc Adrien Sarlat, à retrouver quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio.
RFI Midi.
Un coup d'œil à la presse en Europe, à la une de tous les grands journaux, cette décision des services de renseignement en Allemagne de qualifier l'AFD de mouvement extrémiste de droite. On en parlait il y a quelques instants avec notre correspondante. Une bombe dans le Berlin politique, titre le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pour El País, c'est un moyen d'affirmer que ce parti AFD n'est pas compatible avec la démocratie. Le parti a déjà réagi. Et plusieurs journaux suivent la situation en direct sur leur site internet. El País qui revient aussi sur cette journée d'inondation en octobre dernier dans la région de Valence. 12 heures tragiques d'inactivité de la part des autorités régionales, extrêmement grave selon le journal, ayant entraîné la mort de centaines de personnes. Et puis Libération s'intéresse aussi à l'Espagne, mais à la panne électrique qu'on a observée au début de la semaine, et cela ravive le débat autour des énergies renouvelables, selon le quotidien français.
L'Europe à midi, Anne Cantner.
Des milliers de personnes de nouveau dans la rue hier en Serbie. Le président, très contesté par les manifestants, parle de 5000 protestataires, la police de 6000, mais une ONG indépendante avance un chiffre bien plus important, 18 000 personnes mobilisées pour dénoncer une fois de plus le pouvoir autoritaire d'Aleksandar Vučić et la corruption à la tête de l'État. Pour la première fois depuis le début du mouvement, il y a 6 mois, les étudiants ont été rejoints hier, 1er mai, par les syndicats serbes, Laurent Rouy.
Pour les protestataires serbes, le 1er mai coïncidait avec un triste anniversaire. Il y a 6 mois, le haut-vent de la gare de Novi Sad s'effondrait sur des passagers, tuant 16 personnes. Ce drame a plongé le pays dans une contestation inédite contre la corruption qui met à mal le régime du président Vučić. À la tête du mouvement, les étudiants, dont Luka de Belgrade.
Notre but est la construction d'un État plus juste, un État de droit où les institutions ne seront pas usurpées par un individu. Un État dans lequel les institutions seront fortes.
Les étudiants ont réussi une prouesse, faire marcher ensemble les 5 centrales syndicales serbes, ce qui n'était jamais arrivé. Dragan Milovanovic, manager de l'association des syndicats libres et indépendants, n'en oublie pas les droits des travailleurs.
Ce sont des buts communs qui nous ont rassemblés. La mise en place de l'état de droit, la modification de la loi sur le travail et de celle sur le droit de grève. Ces lois sont tellement contraignantes que les travailleurs n'ont plus aucun droit.
Dans la foule, Dejan, 45 ans, est ancien combattant des guerres de Yougoslavie. Il se dit prêt à défendre les étudiants des provocateurs.
On soutient les jeunes dans leur lutte. On voit ici qu'ils créent quelque chose de beau, de démocratique. Je suis aussi content que le peuple se soit réveillé.
Le rassemblement a été critiqué par le président serbe, pour lequel le mouvement populaire est en perte de vitesse. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Et pour parler de la situation en Serbie, nous sommes en ligne avec la journaliste Milica Kubrilo, correspondante du Courrier des Balkans et du Figaro à Belgrade. Bonjour.
Bonjour.
Le mouvement de contestation est-il effectivement en perte de vitesse, comme l'a dit le président ?
Selon toutes les études et les sondages qui sont faits, c'est au contraire le parti du président, le parti SNS qui est du côté du président, qui est en perte de vitesse. On estime aujourd'hui qu'il a environ 30% de soutien, entre 25 et 30%, alors que plus de 50% de la population soutiendrait l'action des étudiants.
Cette action qui dure depuis 6 mois maintenant, jusqu'à présent, les étudiants étaient seuls à mener la contestation. Le fait que les syndicats, et tous les syndicats en plus, aient marché avec eux hier, ça change quelque chose ?
C'est une première, c'est effectivement une première, et jusqu'à présent, les étudiants se sont plaints. Enfin, pas exactement plaints, mais ils ont appelé les citoyens à les rejoindre il y a plusieurs mois. Ils ont demandé aux citoyens de se constituer en ce qu'ils appellent les sbores, donc à l'image des plénums que tiennent les étudiants, ce sont des espèces d'assemblées. Ils ont demandé aux gens de le faire par quartier pour s'occuper de leurs problèmes locaux. Hier, les gens sont venus justement organiser depuis leur quartier ou leur ville en sbore. Et puis, il y a quelques semaines, ils ont demandé également aux travailleurs, aux ouvriers, de les rejoindre en disant « nous ne pouvons plus continuer seuls, il faut que tout le pays s'y mette, il faut se mettre à la grève générale pour avancer plus vite dans la lutte pour la restauration d'un état de droit ».
Et est-ce que cette ouverture pourrait aller jusqu'à certains partis politiques aussi ?
On parle d'une liste électorale qui serait une liste d'experts qu'accepteraient et proposeraient les étudiants, en effet. Mais pour le moment, c'est encore en discussion. Il n'y a pas de consensus entre toutes les facultés. Mais l'université de Novi Sad, comme celle de Niche, la deuxième plus grande ville du pays, on dit être d'accord pour la tenue d'élections anticipées dans les mois à venir, à condition que les listes électorales soient revues et corrigées.
Donc, eux envisageraient de présenter éventuellement des candidats. Est-ce qu'on peut imaginer d'ici là que certains partis politiques existants rejoignent le mouvement ? Est-ce que les étudiants accepteraient ça ?
Les partis politiques existants d'opposition soutiennent le mouvement, mais le mouvement se tient à distance des partis politiques d'opposition. Et ils ont très clairement dit qu'une liste que les étudiants soutiendraient serait une liste dans laquelle il n'y aurait pas de membres de partis politiques, mais seulement des experts.
Et est-ce que les étudiants attendent quelque chose aujourd'hui des pays européens ?
Oui. Les étudiants ont fait l'effort d'aller jusqu'à Strasbourg en vélo depuis Belgrade il y a quelques semaines pour s'adresser au Conseil de l'Europe et également au Parlement. Et en ce moment, les étudiants sont en train de courir jusqu'à Bruxelles pour pareillement demander à l'Union européenne de les entendre. La commissaire Madame Kos, qui est chargée de l'élargissement, vient de passer 2 jours à Belgrade et a pour la première fois ouvertement soutenu le mouvement étudiant en Serbie en disant que les valeurs qu'il défendait sont les mêmes que les valeurs européennes et que ce qu'ils exigent de l'État serbe est exactement ce que la Commission exige de l'État serbe.
Merci Milica Kubrilo d'avoir été en ligne avec nous, correspondante du Courrier des Balkans et du Figaro à Belgrade en Serbie. Merci. On va s'éloigner un peu de l'Europe maintenant pour évoquer l'Algérie, celle des années 80 et 90. La guerre, racontée à travers les yeux d'un enfant puis adolescent, racontée à partir d'un immeuble dans le deuxième tome de la bande dessinée « Rouama ». Son auteur, Salim Zerouki, est au micro de Sophie Torlotin.
Bonjour Salim Zerouki.
Bonjour.
Rouama, c'est votre autobiographie en 2 tomes, enfance et adolescence, vue par le prisme de l'immeuble dans lequel vous avez grandi, construit en 1975 comme emblème des ambitions modernistes de Boumediene et qui se dégrade progressivement au fil des pages. Est-ce que c'est une façon pour vous de montrer que cet immeuble en fait symbolise la déliquescence du régime algérien ?
De l'Algérie entière.
Oui, pour moi, c'est un symbole de ce que c'était l'Algérie ou de ce qu'on voulait qu'elle soit et ce qu'elle est devenue.
Rouama, ça veut dire quoi ?
Rouama, ça veut dire les Français, tout simplement. Et j'habitais dans cet immeuble-là qui était prévu pour les fonctionnaires de l'Institut de la Science et Technologie du Sport. Il y avait pas mal de coopérants, russes, allemands de l'Est et cubains, et des Algériens aussi. Comme on était assez mixte, on nous a appelés les Rouama.
Vous êtes adolescent dans les années 90, Salim Zerouki, pendant la décennie noire, mais vous l'écrivez aussi en préambule, vous n'aimez pas cette appellation.
Non, je n'aime pas, parce que c'est une fausse appellation. La décennie noire, elle s'est transformée avec le temps vers une crise sécuritaire. Mais si on avait dès le départ appelé ça une guerre civile, elle se serait jamais transformée.
Et vous les représentez, Salim Zerouki, dans votre bande dessinée, sous forme alors de loup pour les islamistes, oui, et de hyènes pour les forces de l'ordre.
Pour les forces de l'ordre, exactement. Je ne voulais pas dessiner tout ce qui s'est passé. Et en passant par les animaux, ça m'a permis d'avoir quelque chose de plus fort, mais de moins violent à l'image.
Vous ne vouliez pas le raconter, Salim Zerouki. Ce qu'on ressent à la lecture de votre bande dessinée, qui est racontée à partir de vos souvenirs, c'est que vous êtes adolescent. En même temps, c'est des très belles années, les années d'adolescence, l'année du bac, par exemple. Il y a une forme d'insouciance aussi.
Il y a une forme d'insouciance, et c'est ça ce qui nous a sauvés un petit peu, parce qu'on n'était pas vraiment conscient de ce qui s'est passé, même si on l'était, mais on continuait à vivre normalement notre vie, on se préoccupait pas de tout ça. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans cette BD, c'est qu'on avait une vie tout à fait ordinaire, où on avait des ambitions, comme toute jeune sur la planète, je suppose, les filles, les séries américaines, le sport, le basket. Mais en même temps, on avait une guerre civile qu'on enfouissait en nous peu à peu.
Puis il y a eu une loi d'amnistie, et là, de ce que je comprends, Salim Zerouki, une loi interdit d'évoquer ces années en Algérie.
Oui, pas la loi d'amnistie, la première, mais la deuxième, quand elle a évolué vers la charte de la réconciliation nationale. Oui, il y a une loi Bayon et une loi qui conforte les criminels de cette guerre.
Mais est-ce à dire qu'on ne peut pas trouver Rouama en Algérie, en tout cas en librairie
Rouama en Algérie, je pense qu'on ne le trouve pas pour d'autres raisons. Comme je viens du dessin de presse et que j'avais l'habitude d'être sans pitié dans mes dessins, je ne voulais pas être subtil sur la BD. C'est quelque chose qui me concernait. Et je voulais vraiment dire que c'est un état criminel qui a commis des horreurs. Et je l'ai dit clairement dans la BD.
Mais vous n'habitez plus en Algérie?
Non, je n'habite plus en Algérie.
Et ça, c'était pour exercer librement?
Oui, pour faire cette bande dessinée.
Salim Zerouki, merci.
Merci à vous.
Salim Zerouki, auteur de la bande dessinée Rouama, le deuxième tome vient de paraître. Interview au micro de Sophie Torlotin. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans 3 minutes, l'actualité internationale. Et puis à midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Et à la une ce vendredi.
Une nouvelle étape dans le processus initié la semaine dernière entre Kinshasa et Kigali à Washington. Conformément à la déclaration de principe signée vendredi dernier par les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda, les deux pays doivent transmettre les éléments qu'ils souhaitent voir figurer dans un futur accord de paix. Au Mali, les partis politiques appellent à un grand rassemblement demain pour défendre la démocratie. Une centaine d'entre eux étaient réunis hier à Bamako pour discuter d'une stratégie commune, alors qu'une concertation orchestrée par la junte recommande leur dissolution et le maintien au pouvoir du général Assimi Goïta sans élection.
À tout à l'heure, Nicolas. On vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. Et tout de suite, on va écouter un peu de musique. Un des coups de cœur des programmateurs de RFI ce mois-ci, Angélique Kidjo et Roselyne Layo, avec le titre On sera là.
On va plus se donner pour les gens de n'importe comment. On va plus se gaspiller n'importe comment. Désormais, on ira voir ceux qui ont envie de nous voir. On va donner de l'amour à ceux qui le méritent.
On avait besoin de soutien, on sait qui a parlé. Oh.
On cherchait quelqu'un pour nous aider, on sait qui a bougé. Oh.
Quand ça n'allait pas, on sait très bien qui priait pour nous.
Alors ne sois pas étonné de voir qui on invite à manger. Oh.
Quand on appelait, on sait qui a décroché.
À tous nos messages, on sait qui a vu, qui a ignoré. Quand c'était en bas, on sait qui a poussé vers le haut. À partir d'aujourd'hui, on sait qui on va mettre au dos. On va plus se donner pour les gens n'importe comment. On va plus se gaspiller n'importe comment. Désormais on ira voir ceux qui ont envie de nous voir. On va donner de l'amour à ceux qui le méritent.
ceux qui nous ont donné. Tout le monde pourra profiter, mais à chacun ses priorités. Oui, ça c'est clair, franchement ça c'est clair. Quand il y avait le brouillard, on sait qui nous a aidé à voir clair.
Mais non, on n'a eu plus, mais de bon voir dans nos vieux mots. Mais non, on n'a pas eu quoi là, mais de bon voir et quoi nous voir. Mais après, à Kaika, n'est plus le mot de Yuego. Après, quand on compte avec mon bon mot.
Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de tem